Le retour de Radio X.
En vacances.
Radio X.
On jasait de Nashville et de Las Vegas avant la pause, avant qu'on parle de politique. Puis salutations à mon collègue, ami, guitariste dans mon hommage à Marie Adams, Jonathan, qui dit oh oui, Nick, on va à Nashville en 2027. Oh. Je sais pas si Sport Garant me ramène ici. Là.
Vous allez jouer à Nashville?
Ce serait le fun.
Brian Adams débarque à Nashville.
Pas sûr que ça le ferait à Nashville. Mais...
Brian Adams Cloutier.
Il y a un gars que je connais qui est allé faire de la musique à Nashville, puis ça marche bien, ses affaires. Là. Un gars qui jouait du violon, c'est quoi dans son nom? C'est parce que je voulais t'en parler, fait que je ne t'ouvrirai pas. Là,
Rick.
Ça va m'en revenir. Il a joué avec Sarah Dufour aussi.
Oui. En tout cas, cet homme,
ce gars-là,
qui est à Nashville.
Plus tôt cette semaine, on jasait, parce que c'est apparu, je pense que c'est lundi, dans les nouvelles, en fin d'émission, en fin de show du retour, concernant cette nouvelle mission spatiale-là, où un Québécois du nom de Joshua Kutrick va s'envoler. En fait, il va passer plusieurs mois à bord de la station spatiale. On se disait, ben OK, il y a déjà des Canadiens qui sont allés pendant un bon moment dans la station spatiale. Mais pourquoi on dit que c'est le premier Canadien à bord d'un vol commercial? On va jaser tout ça. Je trouve ça super intéressant. L'espace, la station spatiale, l'émission pour justement... développer la capacité ou faire des études sur le corps humain dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace? Bref, tout ça. Et on va jaser avec la directrice scientifique de l'éducation et des collections au Cosmodôme de Montréal, Marie-Michèle Limoges. Merci d'être avec nous, Marie-Michèle.
Bonjour, on est à Laval.
À Laval, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Mon erreur, je recommence Cosmodôme de Laval. Donc, ça va bien, merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Donc, j'avais pas tort en disant que c'est pas le premier Canadien à aller à bord de la station spatiale internationale.
Non, ça va être le quatrième Canadien à participer à une mission de longue durée, donc dans la station spatiale. Il y a eu David Saint-Jacques, là, oui. le dernier c'était David Saint-Jacques, 2018-2019. Avant ça, il y avait Chris Hadfield qui nous avait marqué, oui. lui, avec sa chanson puis sa belle vulgarisation scientifique. Il y a eu Robert Thirsk aussi. Donc là, lui, ça va être le quatrième à faire une mission comme ça là, de plus de 6 mois.
Cette mission-là s'appelle Crew 13 ou Crew 13. Qu'est-ce que... tu sais, ça. Un peu abstrait pour nous, la station spatiale. On sait qu'il y a des gens qui sont à bord. À quoi ressemble leur journée à bord de la station spatiale? J'imagine qu'ils ont plusieurs missions à accomplir.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire dans la station spatiale. Donc, c'est typiquement, on va faire beaucoup de sciences. La station spatiale, c'est un immense laboratoire dans l'espace. Et on s'en sert beaucoup pour étudier la santé des astronautes. Donc, la réaction du corps à la pesanteur ou à la microgravité. La pesanteur, c'est extrêmement mauvais pour le corps humain. Ça le fait vieillir en accéléré.
Okay.
Donc, les os vont se décalcifier. Donc, ça ressemble, c'est un peu analogue à l'ostéoporose. Donc, ils vont se fragiliser. Il y a les muscles qui vont s'atrophier. La vision, pour certains astronautes, la vue se brouille. Donc, il y a beaucoup comme ça d'impact qui fait que si on veut faire des missions à très longue durée, envoyer des astronautes sur Mars, par exemple, mais là, il faut... aller être, dans le fond, le total aller-retour plus le temps sur Mars, ça va totaliser plusieurs années. Sur la Lune aussi, la Lune, c'est pas à zéro gravité, mais c'est la gravité, elle est 6 fois plus faible que sur la Terre. Donc, il faut résoudre ces problèmes-là. Donc, ils font beaucoup d'expériences scientifiques. Le Canada est d'ailleurs très fort en expérience en santé là, des astronautes dans l'espace. Donc, il y a beaucoup d'expériences canadiennes auxquelles Joshua Kutrick va participer. Sinon, il y a beaucoup d'entretien à faire parce que juste chez nous, dans notre maison, on a tout le temps un petit quelque chose à faire.
Ouais,
mais là, c'est une maison, mais à 400 km au-dessus de nos têtes et dans le vide de l'espace. Donc, ouais. C'est sûr que c'est un équipement extrêmement complexe et il y a beaucoup de tâches comme ça de maintenance là, intérieure et extérieure. Ça veut dire que, bon, il y a des choses à réparer en dedans. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu souvent David Saint-Jacques avec une lampe frontale en train de réparer la toilette. Donc, c'est oui. une des choses qui brillent.
Ben oui.
Puis, il y a aussi l'extérieur. Donc, Joshua Kutrick, il s'est entraîné dans la grande piscine là, à Houston Où on a une maquette de station spatiale, puis c'est on recrée comme ça les conditions de travail en apesanteur. Donc, il s'est entraîné dans cette piscine-là. Donc, il est capable de faire une sortie extravéhiculaire. Ça, c'est quand on fait une marche dans l'espace, en fait. Donc, il va pouvoir participer comme ça aux tâches d'entretien extérieur. Ils ont aussi des périodes de repos, bien sûr. Hein. On peut pas faire travailler quelqu'un là, toute la journée, tous les jours. Ils s'entraînent beaucoup aussi.
Oui.
Donc, pour essayer de justement d'amoindrir les effets de la pesanteur sur le corps humain, ils doivent faire 2 heures d'exercice par jour, mais pas juste là, marcher sur un tapis roulant en passant à autre chose. Là. C'est vraiment de la grosse exercice soutenue au plus fort de ce qu'ils peuvent donner dans le fond. Et donc, ils ont 3 machines d'exercice dans la station spatiale, puis ils font ça aussi. Donc, 2 heures par jour, ça occupe quand même une grosse portion de leur temps.
À force de taponner puis d'un peu réparer la station spatiale, j'imagine qu'ils l'ont relativement modernisée, mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est pas neuf, même qu'on dit qu'il devrait prendre fin, qu'il devrait être mis hors de son orbite là, aux alentours de 2030-2031. Oui. Est-ce que c'est archaïque, vraiment, la station spatiale? Puis pourquoi on planifie de la faire arrêter d'ici 2030?
Archaïque, je l'aime trop pour l'appeler archaïque, mais c'est un modèle 2000, hein?
Donc,
elle a commencé à. Elle est habitée, dans le fond, en permanence depuis le novembre 2000. Donc, c'est sûr qu'elle prend de l'âge. Là, on a entendu il y a quelques semaines, là, il y avait encore une fuite du côté du module russe, donc une fuite d'air. C'est sûr qu'il y a des bris, tout ça. Et donc, ça coûte cher aussi, envoyer des équipages comme ça. Un lancement de fusée, c'est extrêmement cher. Donc, puis il y a toujours des équipages à bord. Donc, c'est sûr que ça coûte cher. Puis, la NASA a d'autres plans. Donc, le plan, justement, de retourner sur la Lune et d'y construire une base lunaire. Et c'est pour ça que c'est prévu, en 2030, de désorbiter la station spatiale. Donc, il va retomber sur Terre. Et là, la NASA va se concentrer sur les missions Artemis. Mais... la NASA aussi a un programme de avec là j'oublie le mot parce que c'est en anglais puis ça se bouscule dans ma tête, mais c'est un programme pour accélérer les technologies commerciales. Donc c'est affaire à des compagnies privées pour justement envoyer du cargo comme sur la Lune, tout ça.
Comme SpaceX, en fait, là, qui va amener justement Joshua Kotrick sur la station spatiale. C'est pour ça qu'on disait que ça va être le premier astronaute canadien à bord d'un vol, d'un lancement commercial, parce que c'est pas un programme de NASA. Là. On fait affaire avec SpaceX, c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que j'ai bien saisi?
Oui, c'est ça. Ce que je voulais finir comme idée, c'est que, dans le fond, il pourrait y avoir des stations spatiales commerciales, puis la NASA pourrait continuer à faire des vols dans les stations spatiales, mais il aurait une place dans une station commerciale.
Oui, c'est ça.
Donc, ça fait le lien justement avec ça. Donc, la NASA a donné des contrats à 2 compagnies privées pour envoyer des astronautes à bord de la station spatiale parce que la navette est retraitée depuis 2011. Donc, SpaceX a eu un contrat avec la capsule Crew Dragon à laquelle Joshua Kotrick va être le premier Canadien là, à monter à bord. Puis, il y a aussi Boeing qui a eu un contrat pour le vaisseau Starliner, mais lui, il n'est pas encore prêt. Donc, on n'a pas encore eu d'astronaute qui a volé avec ce vaisseau-là. Et justement, Joshua Kotrick devait faire partie du premier équipage à participer à la première vraie mission du vaisseau Starliner. Et puisque le vaisseau n'est pas prêt, il a été réassigné à la mission Crew 13.
Pourquoi la NASA a décidé de mettre fin, mettons, à un programme de navettes? Justement, je comprends que les navettes étaient quand même assez âgées, mais il y avait l'expertise pour en construire de nouvelles, il y avait l'expérience pour le faire. J'imagine que c'est une question de coût. Ça doit être moins dispendieux de faire affaire avec d'autres compagnies qui sont plus commerciales, j'imagine.
Oui, bien, il y a beaucoup. C'est une grosse question. Mais dans le fond, les navettes coûtaient plus cher que prévu. La navette spatiale, l'innovation, c'est que ça devait être le premier véhicule réutilisable. Mais finalement, elle était réutilisable juste en partie. Donc, les coûts des lancements étaient quand même très élevés. Mais c'était le seul véhicule capable d'apporter des morceaux assez gros pour construire la station spatiale internationale.
Okay.
Donc, on en a eu besoin jusqu'à la fin. Donc, dès que le dernier morceau a été assemblé en juillet 2011, on a arrêté le programme des navettes spatiales. On s'est concentré justement sur les vols dans la station spatiale et on a fait appel aux Russes avec les fusées Soyouz pour transporter nos astronautes dans l'espace. Donc, David Saint-Jacques et Chris Hadfield, entre autres, avaient eu là, l'opportunité d'étudier ce vaisseau-là. Puis, dans le fond, avait, la NASA, en donnant des contrats comme ça à des compagnies privées pour développer des fusées, ben, elle peut se concentrer sur autre chose, pas à tout faire le développement, les tests, la certification, tout ça. Puis, elle peut se concentrer sur les missions Artemis, peut se concentrer sur les sondes. Donc, la NASA construit encore des sondes interplanétaires. Hein. Donc, ouais. Ça, c'est un volet aussi là, qui les occupe beaucoup. Et là, maintenant, ben là, il y a le projet de la base lunaire.
Les Russes dans la station spatiale, justement, est-ce que ça cohabite relativement bien avec les Américains? Parce qu'on le sait que ça a été bâti à base justement pour essayer de rapprocher ces gens-là, c'est-à-dire que dans l'espace, il n'y a plus de frontières entre les pays, mais malgré tout, avec la guerre en Ukraine, les tensions qui montent un peu partout dans le monde, est-ce que c'est affecté dans l'espace ou on réussit quand même à juste se focusser sur la mission principale?
Ben oui, vous l'avez dit, la station spatiale, c'est un projet de collaboration internationale. Dans la station spatiale, en plus, les deux langues officielles, c'est l'anglais et le russe. Donc, ça se passe bien. On continue à collaborer pour l'exploration spatiale, pour la station spatiale. Et ça fait du bien à voir. Et même là, je suis attitrée qui est de descendance ukrainienne, vole avec un astronaute russe. Puis on lui a posé la question, comment ça se passe. Lui dit, ben, d'humain à humain, ça se passe toujours bien. C'est pas ça le problème.
Oui, non, c'est ça. C'est ça. C'est pour des missions de ce genre-là. Ils sont tellement bien entraînés au quart de tour. Et le droit à l'erreur est nul, en fait. Combien d'heures par jour ils peuvent travailler à bord de la station spatiale? Tu sais, oui, ils ont des congés, ils s'entraînent, mais au niveau de la concentration, ça demande combien d'heures par jour?
C'est une bonne question. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Vol dans la station spatiale...
Parce que dans le cas de Joshua Cotric, ce qui m'intéresse, c'est que lui, pendant qu'il sera parti à bord de la station spatiale, sa femme va mettre au monde un enfant. Donc, lui devra composer avec la concentration, pas trop penser à sa famille en bas, mais en même temps, t'as un enfant qui vient au monde, donc ça peut être déconcentrant, là.
Pour ce qui est des heures de travail, il me semble de mémoire, mais là, il faudrait vérifier que ça ressemble à une journée de travail normale. Donc, environ 8 heures. Là.
Ouais, ouais.
Puis là, ils ont du temps pour manger, tout ça, ils mangent ensemble le soir. Pour ce qui est de l'accouchement de sa femme, ça a été dit qu'ils vont avoir du support autant de l'Agence spatiale canadienne que de la NASA. C'est pas la première fois que ça arrive, ils sont rodés. Donc, c'est déjà arrivé. Probablement que pendant le gros du travail ou de la naissance, peut-être qu'il ne sera pas peut-être en sortie extravéhiculaire, disons.
J'imagine.
Mais ils vont être aidés avec ça, là, bien sûr.
On en parlait un peu plus tôt, cette genre de privatisation-là de l'espace où des entreprises comme SpaceX peuvent y aller. Puis on parlait de quelqu'un qui pourrait se bâtir une station spatiale. Donc, mettons, de ce que je comprends, si je gagne au Powerball, je fais des milliards de dollars, puis je décide que j'investis ça là-dedans, je pourrais y aller. Qui fait la réglementation de l'espace? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que les États-Unis vont venir me dire non? Puis est-ce qu'ils ont une légitimité ou quiconque veut garocher ce qu'il veut, peut?
Ça fait vraiment des grosses questions.
Ouais.
Les stations spatiales privées, ça va arriver. C'est quelque chose qui est possible de faire. C'est sûr que, comme vous dites, ça prend quelqu'un qui a les reins assez solides pour la construire, mais il va y avoir ça. Donc, c'est sûr que... puis là, on voit en ce moment beaucoup de touristes de l'espace. Donc là, la prochaine étape, c'est vol de tourisme de l'espace plus station spatiale égale hôtel. Donc ça, c'est sûr que ça va arriver. C'était quoi l'autre volet de votre question? Est-ce qu'il y a des réglementations? Il y a des traités internationaux, des traités sur l'utilisation de l'espace. Donc, c'est sûr que c'est réglementé. Il y a aussi là ce qu'on appelle les accords Artemis, par exemple, là, qui est quelque chose qui est signé par plusieurs dizaines de pays pour ce qui est de l'exploration de la Lune. Donc, on se met d'accord sur des règles. Un exemple qui me vient en tête, c'est vraiment le fait que maintenant, un satellite en fin de vie doit être désorbité ou envoyé sur une orbite cimetière qu'on appelle. On ne peut plus laisser des débris comme ça dans l'espace, sur l'orbite basse, par exprès, parce que là, elle est pleine. Si l'espace est pollué. Donc ça, c'est un exemple de nouvelle réglementation là, qu'on a mis. Donc, C'est pas le Far West encore, mais c'est pas totalement non plus très, très, très rigide parce que ce qui se passe, c'est que la technologie va plus vite que les lois.
Ouais.
C'est ça l'affaire. Les lois n'arrivent comme pas à suivre.
Il y a des flous.
Oui, il y a des flous. C'est comme s'il fallait anticiper, mais en science, on peut pas anticiper ce qui se passe, là. Il y a tout le temps des affaires qu'on se doutait pas. Donc, ça c'est un défi, ouais. De faire suivre là, les lois puis les réglementations pour l'exploration spatiale.
Oui, on en parlait tantôt. Peut-être qu'on va mettre fin au programme de la station spatiale d'ici les prochaines années pour au profit d'une base lunaire qui serait probablement plus grande, probablement plus au niveau scientifique goût du jour, je vais dire ça comme ça. Mm-hmm. Puis vous disiez, je lisais que vous disiez que c'est le moment pour en profiter pour faire le plus d'expériences possible sur cette station spatiale-là pour attirer le maximum.
Oui. Bon, on dit que ça va prendre 2 ans pour, fermer la station spatiale, mais pour mettre fin au projet. Donc la date, c'est 2030. Ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas commencé là, en 2028 que le processus n'est pas enclenché, on peut espérer qu'il prolonge un peu. Mais oui, c'est sûr que là, oui, exactement, il faut en profiter pour attirer le maximum. Ben oui, c'est ça. Ça nous fait de la peine. C'est sûr que quand on dit aux enfants que la station spatiale va être détruite dans 4 ans, ça leur fait vraiment quelque chose.
Mais là,
on s'y est attaché. Oui.
Si, ben, j'allais dire, si on a une base lunaire encore plus spectaculaire, j'imagine que ce sera une bonne, bonne chose.
Est-ce que ça sera une base lunaire internationale?
Bonne question.
Est-ce que ça sera un projet aussi rassembleur? On espère, c'est sûr que ça fait rêver,
mais
c'est aussi un projet qui est très américain. On n'a pas encore tant de nouvelles sur les collaborations internationales. Donc, c'est sûr que la station spatiale, oui, c'est une maison dans l'espace, mais c'était aussi un beau symbole. Mais c'est sûr que l'exploration de la Lune, ça fait rêver, mais en même temps, c'est quand même aussi un peu inquiétant. Parce que la station, c'est faite, il n'y a plus de surprises. Donc, ça ouvre beaucoup de discussions, justement, sur l'exploration éthique de l'espace, l'utilisation de l'espace. Il y a des ressources aussi sur la Lune, on ne se le cachera pas. Donc, c'est ça qui vient compliquer un peu, qui vient mettre de l'incertitude sur le projet de la base lunaire.
Ce qui est intéressant avec... Oui, allez-y.
Ouais. Ben, c'est sûr que le fait que les humains y retournent, c'est sûr que ça fait rêver. Puis on peut espérer qu'il y ait des gens qu'on connaît, des enfants qu'on connaît qui pourront faire partie de ces astronautes-là.
Puis ils peuvent observer quand le ciel est dégagé, le point lumineux de la station spatiale qu'on peut voir depuis la Terre. Ça, c'est le fun.
C'est vrai. C'est vrai, on peut l'avoir à l'œil nu, oui.
Ce qu'on ne pourra peut-être pas pouvoir faire avec une base lunaire à l'œil nu.
Non.
Marie-Michel Limoges, merci beaucoup d'avoir éclairci ces questions qu'on avait concernant l'espace, la station spatiale. C'est toujours bien mystérieux. On a toujours 10 millions de questions. Alors, merci d'avoir pris le temps. Puis, on se parle bientôt.
Ça fait plaisir.
Okay, merci. Bye-bye. C'est Marie-Michel Limoges, directrice scientifique de l'éducation et des collections au Cosmodôme de Laval. Je ne sais pas si vous avez vu, parlant d'espace et de soleil, tiens. On a appris qu'il y a un phénomène qui revient à peu près aux 10 ans. Mm-hmm. Un cycle du soleil. Le soleil a un cycle, oui. Mélanie. Ouais. 10, 11 ans, le soleil a un cycle et dans son cycle, à un moment donné, les pôles s'inversent. Fait que c'est des pôles magnétiques, on comprend. Puis dans son cycle, à un moment donné, le magnétique du pôle sud et du pôle nord vont s'inverser. C'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines avec notre soleil. Puis il n'y a pas vraiment de conséquences pour nous.
Il n'y aura pas d'impact du tout, du tout?
Ben, pas tant, là. Ils disent qu'il pourrait y avoir... Il y a plus... En fait, quand ça arrive, là, cette inversion de pôle, ça fait en sorte que le soleil a plus d'activité au niveau de sa surface. Là.
Il y aura
plus
d'explosions. Il
pourrait plus y avoir d'aurore boréale au sud.
Ça peut créer des tempêtes solaires ou des trucs comme ça, mais parfois, ça a des impacts quand même sur la Terre là, quand c'est intense. Là. Il y en a eu, surtout l'été passé, là, je me rappelle, il y avait eu plusieurs avis. Là, on peut trouver ça même sur le site du gouvernement.
Ceux qui disent les ondes magnétiques où se trouvent les tourbillons sont à l'origine des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Oui. Voilà.
Parfois, ça a des impacts sur des outils comme les GPS ou ces trucs-là. Ça peut décalibrer.
Ça peut arriver, c'est ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ça devrait pas trop chambouler notre ville.
Non.
Il va faire soleil, il va faire nuit.
Mais il y a l'éclipse du 12, par exemple.
L'éclipse solaire?
Oui.
Ah oui, c'est une éclipse complète, Mélanie?
Partielle, mais quand même, on pourrait la voir.
Là, repartez pas avec les lunettes, là.
oui.
Là, ça doit être quelque chose qui va arriver juste une fois aux 100 ans.
Alors, arrêtez-moi ça, là. Mais c'est vrai que c'était spectaculaire, là, l'éclipse solaire complète qu'on a vécue au mois d'avril. Là. Puis que là, tout le monde, c'est de la folie, hein, les lunettes partout.
T'es fou, hey,
on a viré fou que ça, hein?
Un peu, oui.
Le monde sont tous allés en Beauce, dans le coin de...
Moi, j'étais ça à 20 quand c'est arrivé.
Hey, c'était le bordel partout pour se rendre.
Hey, c'était fou.
Tout le monde voulait voir ça. Ouais, oui, c'était spectaculaire, je comprends. Mais on a viré fou pareil. Hein?
Donc, c'est une éclipse totale le 12 août, finalement. Je pensais que c'était partiel, mais c'est une éclipse totale qui sera observable dans une grande partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord.
Un point partiel au Québec. Là. Une éclipse va toujours être totale. C'est juste qu'il y a des places, ça va être partiel.
Oui, c'est ça, exactement. Ici, au Québec, ça va être...
On a viré pas fou que ça. Que la dernière fois, là, ça ne nous prend pas grand-chose pour qu'on l'échappe. Les lunettes dans les classes, puis là, faut-tu fermer les écoles? Puis, hein, rappelez-vous de ça.
Ouf. Moi, sais-tu quoi? Je l'ai regardé.
On l'a échappé.
Je l'ai regardé, l'éclipse. À un moment donné, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai regardé.
Moi, je l'ai regardé avec des lunettes. Là.
Je vois encore très bien.
Mais c'est dangereux quand même.
Oh, ben, c'est dangereux, je vois très bien.
Un flash de soudure, tu peux t'en sortir. Mais
c'est quoi? J'ai fait ça. Plisser mes yeux.
Ah, ouais.
Okay. Comme quand je fais de la soudure. Plisser mes yeux.
Des lunettes de soudure, ça te tente pas?
Lunettes de sécurité, Nick.
Oui.
Comme quand tu coupes au buffer. Là, j'ai pas mes lunettes. Là, j'ai mes lunettes. Les gens le voient pas.
Lunettes de soudure, oui. C'est fait pour ça. Ah
oh, oui. Tu te vires la tête d'abord. Tu te plisses les yeux, man.
Moi, à chaque fois que je l'entends faire de ce genre de être téméraire de même, je me dis, ça explique bien les choses.
Oh, oui, Louis, c'est un...
Je vois très bien.
On fait une courte pause. Dans le retour de Radio X avec Nick Cloutier, Louis Gauvin, Mélanie Trudel. C'est le retour en vacances. L'équipe officielle revient lundi prochain avec toute la programmation complète ici à Choix. Et ben c'est ça, on fait une pause, on revient.
Le retour de Radio X.
Radio X.